Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que la France se demande si elle va revivre les grandes grèves de 1995 qui a fait reculer à l'époque Alain Juppé, se dessine dans l'Hexagone un front anti-Macron de plus en plus précis et nombreux. L'actualité française, c'est aussi ce chiffre tombé durant le mois dernier. La France est désormais le troisième producteur d'armes dans le monde. Un chiffre grave et une polémique qui la possibilité que les armes françaises servent dans la lutte de la coalition arabe contre les rebelles au Yémen. Mais l'actualité de ce mois, c'est aussi le voyage d'Emmanuel Macron en Inde et les questions économiques et stratégiques que cela pose, ou l'élection en Russie du tsar Vladimir Poutine pour un quatrième mandat. Bref, de quoi débattre. Le grand débat de Vivante Église, c'est donc ce vendredi avec autour du plateau le tiercé gagnant de ce mois-ci, Tanguy-Marie Pouliquen, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bernard Ribal, docteur en philosophie, président des semaines sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Cabanis, chroniqueuse géopolitique à Radio Présence et professeur émérite de droit à l'Université catholique, l'Université Toulousain-Capitole. Bonjour.
Bonjour à tous.
Premier sujet, je l'ai fait en fait dans le désordre par rapport à l'introduction, on s'est dit qu'on allait parler donc du voyage d'Emmanuel Macron en Inde. Voilà, c'est le luxe que l'on se paye dans cette émission de ne pas être toujours dans l'actualité chaude. Les auditeurs ne s'en plaignent pas pour l'instant, alors on continue. C'était donc à partir du samedi 10 mars dernier, visite d'État de 3 jours avec une délégation extrêmement nombreuse. À la clé, la signature d'un certain nombre de contrats, je vais retrouver combien, pour, on va dire, favoriser les relations économiques et stratégiques entre l'Inde et la France. Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage d'Emmanuel Macron en Inde ?
À certains égards, la discordance entre un certain enthousiasme quant aux chiffres précisément, les contrats signés, etc., ce qui est un peu classique dans tous nos grands voyages d'État de nos présidents successifs, quelle que soit leur couleur politique, notamment et surtout lorsqu'ils se rendent en Asie. Et à chaque fois, lorsqu'un an après, on examine la réalité, ça a diminué de la moitié, voire plus, pour une raison très simple, c'est que les Français n'ont pas encore compris qu'en Asie, on ne dit jamais non et que oui n'a pas du tout la même signification qu'ici. Et pourtant, avec l'Inde, on devrait être vacciné. Les épisodes à répétition au sujet des rafales nous ont montré, un, qu'ils étaient des négociateurs hors pair, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, mais qui évidemment ne nous arrange pas toujours, et que s'ils octroient un bon d'achat, si l'on peut dire, c'est moyennant des concessions importantes. Donc, on peut se féliciter d'un rapprochement avec cette puissance qui talonne la Chine sur de nombreux points, qui est un marché intéressant, qui est culturellement un partenaire extraordinairement riche. Mais je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans la naïveté d'imaginer qu'on a là un réservoir inépuisable pour notre production. Ce serait se tromper.
Voilà, c'était 20 contrats pour un montant de 13 milliards d'euros. Dans l'opinion publique, circule souvent à l'occasion de ces voyages le sentiment que ce n'est pas le rôle du chef de l'État d'aller faire le VRP de la France. En tout cas, c'est ce qui était reproché au précédent président de la République. Vous qui avez peut-être un peu plus de mémoire politique, est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Et en fait, est-ce qu'on reste étonné à chaque voyage alors que c'est une, comment dire, c'est une tradition, on va dire, dans la vie politique française ou autre?
Non, je crois que c'est un phénomène qui est relativement, pour s'en garder, récent, parce que, bon, jusqu'à la fin de la 4e République, le président arrosait ou distribuait les chrysanthèmes, donc il n'avait rien à faire de ce point de vue-là. Et sous la 5e, alors que le pouvoir présidentiel est renforcé, la dimension strictement politique l'a emporté pendant très longtemps. Mais c'est à partir du moment où notre économie a commencé à se porter beaucoup moins bien, en gros la crise pétrolière, qu'on a considéré qu'il y avait une mission particulière du président dans l'intérêt de tout le pays, de tous ces secteurs économiques, de faire en sorte de favoriser leur développement, donc les exportations.
Voilà, la France qui se situe au 9e rang des investisseurs étrangers en Inde. Bernard Ribal, sur ce voyage, quelle est votre réflexion ?
En dehors des questions économiques dont vous avez déjà parlé,
Moi, je crois qu'il fallait pas, il ne fallait pas laisser mourir la flamme qui brûle encore un peu entre le passé de l'Inde et le passé de la France et leur passé interactif. On a des relations avec l'Inde, des relations, une tradition historique de relations. Et en préparant rapidement, parce qu'on a reçu votre mail hier soir, mais c'est normal ça, en préparant rapidement les thèmes, j'ai vu que ce n'est qu'en 1954, qu'on a fermé définitivement les cinq comptoirs des Indes, qu'on apprenait par cœur à l'époque au lycée, mais j'en ai oublié pas mal. Et je me souviens de Pondichéry, je t'en ai en accord. Après, bon.
Et moi, j'ai découvert qu'à Pondichéry, la première langue étrangère encore apprise était le français.
Ouais, mais même dans l'ensemble de l'Inde. Hein, si on compte l'anglais comme langue officielle, l'une des deux langues officielles de l'Inde, c'est l'anglais. La première langue vivante étrangère, c'est le français. Dans toute l'Inde, pas simplement à Pondichéry. Mais à Pondichéry, en plus, il y en a qui ont encore la nationalité, la double nationalité, française et indienne. Donc les choses sont lentes hein, dans l'histoire. Et l'indépendance de l'Inde, c'est 1947. Donc il y a 7 ans, entre l'indépendance de l'Inde par rapport à l'Angleterre et la fin des comptoirs français en Inde, qui correspond, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il y a une raison de cause à effet, mais ça correspond à la bataille de Dien Phu.
Et quand vous dites qu'il y a une flamme encore vivante, est-ce
oui,
que,
je crois,
est-ce
je
vraiment
crois.
Le cas ou...
Si, si, je crois. Je crois qu'il y a... le français n'est pas perçu de la même façon que l'anglais en Inde. Et moi, j'y suis jamais allé, donc c'est pas un témoignage personnel. Mais d'après ce qu'on en peut en lire ou en entendre, on est mieux perçu. Et on est en particulier sur le plan de littéraire, culturel, humaniste. On est mieux perçu. Et c'était une bonne raison d'aller... Il y a 3 lycées français en Inde. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à la population. Hein. Mais
il n'y a que 10 000 expatriés, j'ai vu. C'est quand même pas énorme pour un site.
Non, mais on est le troisième investisseur. Je ne dis pas exportateur ou importateur. Investisseur, on est le troisième investisseur en Inde. Donc, c'est pas si mal que ça, quoi.
Tanguy-Marie Pouliquen.
Alors, moi, ce qui me reste de ce voyage, c'est le choc culturel entre la culture française et la culture indienne. Moi, j'étais en Inde il y a quand même pas mal d'années, et en interrogeant des Indiens qui sont à Toulouse, ils m'ont dit « Waouh, pour eux, quand ils arrivent en France, un sentiment de liberté, un sentiment de brassage social incroyable. Il n'y a pas de brassage social en Inde. » Il n'y a pas de brassage social, c'est pas 5 castes majeures, c'est des milliers de castes. Et le passage entre les castes ne se fait pas. Ne se fait toujours pas. Il y a une minorité qui est sociale de 100 millions de personnes qui sont de culture européenne. Mais ce brassage-là ne se fait pas. Donc c'est le choc des cultures. Les mariages mixtes ne se font pas, les mariages entre castes ne se font pas. Les meurtres d'honneur sont monnaie courante ou se font régulièrement. Donc il y a cette question culturelle qui est intéressante à sonder, et en allant en Inde, au-delà de l'aspect de foisonnement de vie que l'on constate au premier regard, il y a des clivages forts. Voilà, en tout cas la France a réussi un certain brassage social. Et au plan économique, prospectif, j'ai un ami qui travaille au plus haut niveau dans Suez, par exemple, des développements, sur les questions de l'eau, sur les questions aussi du solaire. C'est la question...
Macron, d'ailleurs, enfin, il y a eu une rencontre autour du développement de l'énergie solaire.
Ça, c'est des accords stratégiques qui datent de plusieurs années, depuis COP21, où il y a un accord qui vise à fédérer pour les 120 pays qui se trouvent entre le tropique du Cancer et du Capricorne, de développer cette énergie durable qui est le solaire, et la France est en tête de file de cette promotion, de cette nouvelle énergie. Ce que je veux dire aussi d'un point de vue écologique, puisque c'est la porte entrouverte, c'est les énormes problèmes que rencontre actuellement l'Inde, par exemple du point de vue de l'eau. Et donc la question écologique, aujourd'hui, du point de vue du réchauffement climatique, impacte déjà l'Inde, notamment au niveau de l'eau. Et au niveau de l'eau, me disait cet ingénieur indien, c'est un problème de politique publique, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas assez de barrages pour retenir cette eau. Cette eau coule, dévale dans les grands fleuves, etc., ou brusquement par des orages, mais il n'y a pas de retenue. Donc il manque encore une politique publique, locale, convergente, avec une politique nationale pour retenir cette eau. Et je pense que le savoir-faire français peut contribuer à cette réflexion, notamment en termes de santé publique, mais aussi en termes d'investissement public et pourquoi pas de production d'énergie propre là aussi.
On aurait pu parler de d'autres choses, mais je vois le temps qui passe comme à chaque fois. Emmanuel Macron, qui a voulu qu'un pacte fort soit scellé entre ces deux démocraties, et a aussi ajouté « Je veux que l'Inde soit l'un de nos principaux partenaires dans la région, dans le domaine de la sécurité ». Voilà, se jouer aussi des choses autour de ça. Mais peut-être y reviendra-t-on à l'occasion d'une prochaine émission. Je propose de passer au deuxième sujet, donc la Russie. Élection donc de Vladimir Poutine, quatrième mandat, avec une interruption au milieu, donc réélu pour 6 ans avec un score magistral, 76,69% des voix, pour un taux de participation de 67,5%. Voilà, donc le deuxième arrivant derrière Pavel Groudinine, parti communiste, 11,77% des voix. C'est donc un triomphe. On dit que Vladimir Poutine est très populaire dans son pays. On a l'impression que les opposants se sont battus pour essayer d'exister, non sans difficulté. Peut-être pour introduire le débat, je citerai deux choses. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, qui avait été déclaré inéligible par la commission électorale avant, a fustigé une élection de marionnettes et une ONG, l'ONG Golos, que l'on dit être financé par les États-Unis, a parlé de bourrage d'urnes dans certaines régions ou a souligné que certaines régions votent de manière structurelle pour Vladimir Poutine à 99%. Est-ce que ce sont des vues européennes complètement déplacées, Daniel Cabanis, que d'émettre ces interrogations, ces réserves sur cette élection ?
Non, parce que je crois que dans tous nos pays, on a la possibilité d'une plus grande diversité, mais en même temps, je crois que nous devrions nous garder de prendre des grands airs de donneurs de leçons, parce que nos systèmes n'aboutissent pas à des résultats très 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 satisfaisants. Des grands pays comme l'Italie ou l'Allemagne ont des crises politiques durables parce que les uns disent que c'est à cause de la proportionnelle, il y a peut-être... Enfin, j'en suis même sûre, il y a d'autres causes. Mais on a la peine à trouver une majorité de gouvernement. Dans un pays comme le nôtre, si la légitimité formelle de notre président ne fait pas l'ombre d'un doute, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas étant une autre chose, mais il ne faut pas oublier qu'il est arrivé au pouvoir avec... des désignations successives qui sont pas véritablement enthousiasmantes. Son taux est d'autant plus favorable qu'il avait en face de lui Madame Le Pen, mais il reste qu'à peu près la moitié de l'électorat qui n'était ni lui ni Madame Le Pen, donc c'est à peu près la moitié de l'électorat français, n'était finalement plus du tout directement représenté. Donc ils ont fait un vote par défaut ou par dépit.
Mais ce à quoi beaucoup répondraient que en France la campagne était quand même normalement à peu près équitable, ou en tout cas ouverte.
Alors, non, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait comparer. C'est simplement pour dire qu'il faut éviter de trop donner de leçons. Il est sûr et certain que le système Poutine est un système qui ne laisse pas la place à l'opposition, puisque quiconque tente de se dresser contre lui se voit pour le mieux réduit au silence, sinon un silence définitif pour le pire. Il a tout un arsenal de moyens répressifs qui sont hérités d'une très très longue tradition. Il n'a pas l'ombre d'un état d'âme pour les utiliser. Donc les chiffres n'ont finalement pas une portée aussi grande qu'on pourrait vouloir leur donner. Cela étant, on aurait tort d'imaginer qu'il est très 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 loin d'une vraie victoire. Parce que une part non négligeable des Russes se rallie d'autant plus volontiers à Poutine qu'il voit en lui non pas celui qui va tout leur donner tout de suite dans un plat armorié, mais celui qui est capable de faire le plus ou le moins mal pour que la situation interne de la Russie finisse par s'améliorer, et surtout, ce qu'il sait très habilement exploiter, celui qui a rendu sa dignité, sa grandeur à la Russie, qui était sorti meurtri et laminé par la chute du communisme.
On va refaire le même ordre. Bernard Ibal.
Oui, alors, pareil, je ne veux pas répéter. Je vais me mettre sur un autre plan. Deux idées qui me paraissent importantes, en plus de ce que Daniel a pu dire. La première, c'est qu'il y a peut-être peu d'appétence des Russes pour la démocratie. Et que d'ailleurs, de nombreux philosophes, y compris en France, en Occident, qui sont des démocrates, se pose la question de l'universalité de la démocratie, du principe même de démocratie. On se pose cette question depuis Tocqueville, quoi. Enfin, c'est pas nouveau. En tout cas, nous, on a cette appétence, nous, les Français, ou pas mal d'Européens, particulièrement d'Européens de l'Ouest. On la retrouve pas donc nécessairement en Russie, où ils cherchent davantage le chef qui protège, et qui a redoré le blason d'une Russie humiliée. Mais quand même, ce qui est inquiétant à ce sujet, c'est que, et là j'irai jusqu'à cette comparaison, il a un petit peu, en politique étrangère et militaire, des attitudes hitlériennes, quoi. Je veux dire par là que, sous prétexte que...
Hitlérienne, le mot, oui.
Hitlérienne, oui. Parce que, sous prétexte que les Sudètes étaient germanophones, que l'Autriche était germanophone, que la Prusse orientale était germanophone, Hitler a trouvé l'argument, pas du tout valable, mais l'argument pour envahir ces pays-là. Poutine fait exactement pareil avec les russophones, quoi. Et viole le principe... minimum de la paix, qui est le principe de l'intangibilité des frontières.
Confère la Crimée, c'est ça ?
Confère la Crimée ou l'Est de...
Le Donbass.
Oui, l'Est de l'Ukraine. Et la deuxième et dernière idée que je voudrais développer, elle est peu utilisée, on la trouve même pas sur Internet, je cherchais à avoir des précisions, c'est que les Russes sont très attachés à l'idée de la troisième Rome. La première Rome, c'est Rome, du temps des Romains. La deuxième, c'est Byzance. Et la troisième, c'est eux, Moscou, maintenant. Maintenant et depuis quelques siècles, ça aurait dû commencer d'après eux. Et c'est très soutenu par l'Église orthodoxe. Mais vraiment, fortement soutenu.
Patriarcat de Moscou.
Oui, bien sûr, par le patriarcat de Moscou. Et il y a une connivence forte, hein, entre Poutine et ce patriarcat de Moscou.
Et il lui vaut les louanges parfois de certains hebdomadaires chrétiens, du coup.
Oui. Et oui, on a le très chrétien Poutine, quoi. Mais il est perçu comme ça, hein, en Russie. Il est perçu comme ça. Nous, en Occident, surtout la France qui se veut laïque, les médias se fichent un peu de savoir s'il va aux offices religieux ou s'il n'y va pas, Poutine, on s'en fout complètement. Mais eux s'en moquent pas du tout, hein, sur place. Donc cette idée de troisième Rome est une idée importante. La Russie a une mission, la Russie a une vocation, et il y a une âme russe, quoi, hein, portée par la très grande littérature russe, qui est à la fois une âme profonde et tragique, quoi, hein, et Poutine, c'est un peu la synthèse de tout ça, quoi.
Tanguy Marie Poulikin, Vladimir Poutine est-il un grand chrétien ? Non, c'est pas ma question, c'est une question trop piège.
Alors, derrière cette question, on peut relever quelques réflexions, à mon avis, intéressantes. C'est d'abord que l'éthique sociale russe, portée par l'éthique sociale orthodoxe, c'est une éthique sociale qui met d'abord la nation en premier. Donc, qui met l'appartenance à un territoire et à une culture commune. Et donc, ce président se veut le représentant ferme et dans la durée de cette nation qui a souffert longtemps, même sous le communisme, et depuis la chute de l'URSS. Et donc, c'est un représentant ferme qui est à la tête de ce pays, et certains reconnaissent en lui un tsar, le tsar dont on a besoin. Alors, le problème majeur qui fait que la démocratie s'enracine difficilement, parce qu'il faut, je pense, le dire en Russie, c'est que les classes moyennes sont faibles. Et une démocratie se construit sur deux choses, sur deux piliers, sur des classes moyennes émergentes et sur une administration non corrompue. Et actuellement, je pense qu'en Russie, il y a des éléments faibles qui caractérisent ces deux dimensions. Les classes moyennes sont quand même faibles. Et l'administration est vraiment sous contrôle, elle est intéressée. Voilà. D'un point de vue politique, strictement politique, il y a une volonté critique, je pense, des élites russes, mais on peut traverser toute l'Asie et arriver en Chine sur la notion même de démocratie. Il n'y a pas une seule interprétation de la démocratie pour eux. Il y a une démocratie qui est plurielle. Ici, c'est une démocratie qui voudrait croiser, s'assimiler à certains autoritarismes politiques. Donc, c'est quand même des forces qui deviennent constantes actuellement dans beaucoup de pays de la planète et qui touchent progressivement même l'Afrique. C'est un libéralisme économique et un autoritarisme politique.
En tout cas, on a fait le parallèle avec la Chine.
Oui, la Chine, puis vous avez Erdogan en Turquie, c'est ça. Et puis après, vous avez l'Égypte, et puis ou une sorte de présidentialisation à l'extrême dans la durée d'un régime se substitue aux libertés publiques. Donc c'est l'ordre avant la liberté. Et ça. Alors, est-ce que le peuple russe va bien? Moi, je dis qu'il y a un signe qui est inquiétant, c'est la démographie. En tout cas, ils n'ont pas envie de faire des bébés, ils n'ont pas envie de se projeter dans l'avenir. D'où une proposition de campagne de donner une aide financière dès le premier enfant. En tout cas, il y a des... Voilà. Alors, il y a une forme aussi de pérennité, on l'a évoqué, de césaropapisme. La deuxième robe se déplace en troisième robe, entre une collusion entre le pouvoir temporel et spirituel. Oui. Et le patriarche Kirill est très proche du pouvoir russe.
Patriarche de Moscou, donc.
Oui, patriarche de Moscou. Ah, je rejoins l'idée qui a été évoquée. Il faut voir aussi ce qui émerge de positif, de structurant. Je crois que c'est un pays qui retrouve aussi son âme, qui retrouve sa pensée propre. Poutine est pour un monde multipolaire, donc il n'est pas pour une pensée unique qui traverserait la planète. Donc et, voilà, que la slavophilie qui traverse la Russie actuelle, je dirais, si elle est purifiée de ces forces autoritaires, autoritaristes et du refus de faire émerger une classe moyenne, elle pourrait, à travers notamment le meilleur de sa littérature, redonner un souffle à une culture contemporaine qui a besoin de vivacité renouvelée.
On aurait pu parler des défis donc, de Vladimir Poutine. Celui qui a été souvent pointé, c'est faire face à une récession, voilà, des grands défis, donc la crise démographique, un système de retraite à bout de souffle, des investissements étrangers en berne et une économie dépendante des hydrocarbures. Je finirai juste en donnant une citation qui est de Vladimir Poutine. « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui souhaite sa restauration n'a pas de tête. » J'ai vu cette phrase qui circulait, qui, dit-on, résumerait en partie Vladimir Poutine. On va faire une pause. Et puis on va vous retrouver pour parler des grèves, des grandes manifs en France et puis des ventes d'armes, puisque la France, c'est un chiffre qui est tombé au mois de mars. Vous l'avez peut-être vu, chers auditeurs, la France est troisième vendeur d'armes dans le monde.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc le grand débat de Vivante Église, pour rappel, autour du plateau, honneur aux dames Daniel Cabanis, chroniqueuse géopolitique à Radio Présence et professeur émérite de droit à l'Université Toulousain Capitole, Tanguy-Marie Pouliquen, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Bernard Ribal, entre autres président des Semaines sociales de Toulouse. Je l'avais annoncé, je voulais qu'on parle des grèves, évidemment. Comment ne pas parler des grèves? Déjà, peut-être aurait-on pu me dire qu'il fallait commencer par cela. Mais je voudrais qu'on en parle de manière assez large. C'est-à-dire pas seulement les grèves actuelles, mais cette gronde sociale qui... Il y a eu les prisons, il y a eu les EHPAD, il y a eu les retraités qui ont manifesté. Moi, je ne me souvenais pas de manifestation de retraités. Évidemment, donc, les grèves autour de la réforme de la SNCF. Grève, donc, on va dire, largement suivie pour certains. Je rappelle juste les enjeux. Alors, est-ce qu'il y a débat sur la réforme de la SNCF? Vous allez me dire, ou me dire votre sentiment sur, plus général sur les grèves. 47 milliards de dettes. Et si j'ai bien compris... un problème que l'on s'est repassé de gouvernement en gouvernement, et des pouvoirs publics qui ont usé et abusé de la construction du TGV à grands frais aux quatre coins de la France, et aujourd'hui la SNCF se retrouverait plombée, entre autres par cette réalité. Ce ne serait pas la seule, mais j'essaye d'être concis. Bernard Ribal, vous qui êtes le chrétien social-démocrate du plateau, je vous
taquine. Les autres sont ratés antisociaux.
Voilà, c'est
absolument. Non, on partage votre point de vue.
Quel est votre sentiment sur cette grève et ou sur ces grèves qui se multiplient en France?
Oui, ben moi je sais, je vois bien les médias qui montrent ces manifestations, ces grèves, mais pour l'instant, quand on a une expérience et une vision un peu du passé, on est très loin de 95, par exemple, quoi, hein, le 1995. Et puis c'est plus du tout le même contexte, les mêmes mentalités. Et il y a une confusion de revendications qui sont très diverses. Par exemple, les étudiants manifestent de plus en plus. Là, il y a une montée. Hein, ça arrive souvent au printemps, d'ailleurs. Hein. Il y a une montée, mais leur revendication est quand même difficile à comprendre. Le gouvernement répond à leur principale revendication, et ils avaient raison, hein, ne plus avoir le tirage au sort comme entrée à l'université. Je vois pas d'autre solution que celle proposée par le gouvernement, si ce n'est de faire pousser en un mois des universités partout, ce qui est impossible. Donc on voit pas bien ce qui se passe. Côté cheminot, on voit bien la défense du statut, mais dans la mesure où ce statut n'est pas mis en cause pour ceux qui l'ont déjà, et que ça ne porte atteinte que au futur, tout
est-ce
ça...
Est-ce que le résumé de la cause de la crise pour la SNCF vous semblait... Enfin, évidemment, c'est un très grand résumé, mais est-ce que c'est...
Je crois qu'en fait, la grogne vient d'un fait bien français qui est de ne pas accepter en son fort intérieur la remise en cause, un tant soit peu, du secteur public. On est très jacobin, et c'est un aspect du jacobinisme, ça. Je m'y mets dedans, là. Moi, j'estime que tout ce qui est de l'ordre du réseau, ferroviaire, électrique, l'eau, etc., tout ce qui relève du réseau devrait rester public. Une idée comme ça, je suis pas sûr d'avoir tous les arguments pour la soutenir, mais c'est une conviction profonde. Et je crois qu'elle est largement partagée par les Français. Quand on regarde le dernier sondage, on a une majorité de Français qui soutiennent les grévistes, mais en même temps, dans le même sondage, ils sont 70% à penser qu'il fallait absolument supprimer, éroder le statut de cheminot, que ce soit pour les retraites ou même pour son fonctionnement interne. Donc c'est assez contradictoire tout ça, si ce n'est de redouter la remise en cause du secteur public qui paraît avoir une grande importance pour l'ensemble des Français, quoi.
Daniel Cabanis, sur ces grèves, je veux juste faire une mention. Donc cette grève des retraités, des retraités, parce que grève des retraités, ce serait un peu compliqué. Moi, ça m'a surpris. De mémoire de journaliste, en tout cas, je n'avais pas souvenir de manifestations comme telles. Donc plusieurs dizaines de milliers de personnes, quelques coins de la France, qui sont descendues en cause, entre autres, l'augmentation donc à l'automne de la CSG. Après, pour certains, la suppression de la demi-part fiscale des veufs et des veuves. Et donc ça, au final, ça fait quelques centaines d'euros par an, et quand on en a déjà pas beaucoup, ça fait, disent les manifestants, très peu. Est-ce que vous êtes, quel est votre avis sur ces multiples manifestations ?
Bon, appartenant à la glorieuse catégorie des retraités, vu mon grand âge, j'ai pleuré sur 1,7%. Non, soyons sérieux. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se culbutent. C'est vrai que les Français, de manière très générale, comme l'a dit Monsieur Imal, ont une horreur viscérale à ce qu'on touche, à ce qu'ils considèrent comme des statues complètement sacralisées. C'est notre veau d'or sacré, voilà, on tourne autour, on danse autour, voilà. Et il faut surtout ne pas y toucher. Au point que parfois, c'est sur des questions finalement périphériques de statues que l'on bute pour faire des réformes de fond plus importantes. Et je pense que pour la SNCF, j'entends sans faire la défense du gouvernement, mais si on examine très exactement ce qui a été dit et rajouté, le statut n'est pas tant écorné que ça pour ceux qui y sont. Donc, il y a des aménagements, et il y a encore une certaine marge de manœuvre. Donc ça pourrait très bien être réglé sans difficulté majeure, moyennant qu'on y mette un peu de bonne volonté. Mais on s'accroche à ça par peur que la réforme de fond sur le statut de la société, la prise en charge ou la pas prise en charge de la dette, la transformation des lignes, on met tout dans un même sac alors que ça relève de plusieurs autorités différentes et qu'on a ainsi trouvé un prétexte pour ne rien faire. Alors, il ne s'agit pas toujours de dire que les autres font mieux que nous, parce que tout ne se passe pas toujours parfaitement bien.
On cite souvent le cas de l'Angleterre, qui, même si ça va mieux,
il y a eu des problèmes.
Ça n'a pas forcément été très bonne.
Oui,
en revanche, les Italiens sont contents.
Mais les Italiens sont contents, et même très contents. Et pour les Anglais, c'est passé par une privatisation. En France, on ne parle pas de privatisation,
puisque le
capital resterait intégralement détenu par la République. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et en Angleterre, ça s'est fait dans une volonté de compétition entre des lignes privatisées. Effectivement, ça s'est globalement plutôt mal passé.
Et même là, il y a un problème d'imaginaire. Vous parlez tout à l'heure de l'imaginaire secteur public, mais il y a l'imaginaire de la privatisation. Hein. Mmh. L'aviation civile, les aéroports, ils sont privés, très souvent privés, mais ces aéroports sont communs à toutes les compagnies aériennes. Et ça ne change personne.
Il y a des cahiers des charges très précis, quoi,
voilà.
Quand même, imposés par les.
Ah oui, mais il peut y avoir des cahiers.
Bien entendu.
Voilà, il peut y avoir des. Alors donc, il peut y avoir plusieurs compagnies ferroviaires sur les mêmes lignes. C'est quand même pas.
Tant que les Républicains, êtes-vous insensible, comme Daniel Cabanis, à l'augmentation d'1,7 point de la CSG ?
Il ne le vit pas, il est jeune, lui.
Oui, alors on verra quand on sera à la retraite. Mais bon,
quand on touchera 1200 euros par mois, puisque
alors,
ça semble
puisqu'on parle d'argent, je pense
que les retraités toucheront
que les réformes, derrière la logique, on pourrait dire très intéressante, du gouvernement, de flexi-sécurité, flexibilité de l'emploi, je dirais une certaine libéralisation de l'économie compensée par certaines sécurités de droit à la formation, de certains droits sociaux. Derrière ça, dans ce tuilage social, progressif, il faut quand même penser au quart de la population française qui n'a pas de mou, qui n'a pas de résilience financière immédiate, qui n'a pas un ou deux mois d'argent de trésorerie, donc un ou deux mois d'avance, donc des gens qui ont le couteau sous la gorge, et on peut comprendre que lorsque les réformes s'enclenchent aussi vite, il peut y avoir des pertes de repères réelles qui posent qui peuvent créer des points de fixation sociaux.
Alors, la pension moyenne nette en 2017, 1283 euros.
Oui, alors ça fait, il paraît que pour les retraités, c'est une perte annuelle de 700 euros, ce qui n'est pas négligeable rapporté à c'est plus que 1,6 oui, de Madame Cabanis, hein, d'un point de vue...
C'est un peu confus, hein, parce que les pensions en dessous de 1200 euros...
ne sont pas touchées.
Ne sont pas touchées. Alors, sachant que le salaire moyen, la retraite, la pension moyenne est de 1200 et quelques, finalement, on se demande qui c'est qui est touché, quoi, hein, enfin, moi, je sais que je suis touché.
Oui, moi aussi.
Un retraité célibataire avec une pension mensuelle brute de 1600 euros paie 132,80 euros de CSG contre 105, ça fait 27 euros de plus par mois. Voilà.
Bon, fois 12, ça fait autour de 300.
Après, il faut resituer aussi ce conflit dans l'histoire des conflits sociaux depuis 25 ans, hein. La dernière fois où le gouvernement a vraiment reculé devant un conflit majeur, qui a cristallisé les tensions sociales, c'est le CPE. Hein.
Oui.
C'est devant les étudiants. Quand les étudiants ont envahi la rue, c'est le gouvernement Villepin qui a dû finalement lâcher. Bon, Juppé fait une expérience de fixation, mais depuis, aucun gouvernement n'a reculé devant la pression de la rue. Aucun gouvernement. Donc, cette social-démocratie, pas forcément chrétienne, je dirais, qui s'appuie sur la force de la représentation nationale...
Vous parlez de Bernard Ribal ou vous parlez de la force de la
rue ? Pour décider de la décision publique et politique, je dirais, s'impose dans le paysage français. Donc, derrière, on a parlé d'imaginaire, mais c'est aussi derrière cet attachement de la culture sociale française, d'une économie sociale de marché. Donc, une logique de marché, que de marché, non. Il faut des équilibres, une certaine notion de service public, mais derrière la notion de service public, il y a l'égalité au service public. Pour les universités, par exemple, il faut vraiment défendre les frais d'entrée à l'université, ça vaut rien. C'est dérisoire par rapport à toutes les universités étrangères.
Oui.
Donc ça crée une égalité d'accès formidable, un levier social formidable. Donc protégeons notre poule aux œufs d'or, hein. Faisons-lui quand même un bon petit nid, mais ne cassons pas l'œuf en enlevant le nid.
Je propose de passer au dernier sujet, les ventes d'armes. Donc, c'est un chiffre qui est tombé donc courant mars dernier. La France serait maintenant donc le troisième, en tout cas sur la période 2013-2017, vendeur d'armes dans le monde. Les ventes d'armes dans le monde ont été sur cette même période en augmentation de 10%, augmentation de 27% pour la France, et derrière donc, mais loin derrière, les États-Unis et la Russie. On pourrait citer un certain nombre de groupes français qui vendent des armes. C'est pas forcément le lieu de faire ce catalogue, je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Entre autres, lors de son voyage en Inde a été question de vente d'armes. Je voudrais juste, pour introduire peut-être le débat, dire sur 10 ans, si l'on lisse sur 10 ans et non pas sur ces 5 dernières années, les pays à qui l'on a vendu le plus d'armes, c'est l'Arabie Saoudite en tête, le Brésil, l'Inde, les Émirats Arabes et les États-Unis. Voilà, j'ai vu ça.
Je crois que si les contrats sont suivis des faits, l'Inde passerait en premier.
Donc, rien que sur le chiffre, c'est vrai que ça a choqué, sachant que les deux tiers de ces ventes d'armes sont faites en fait à la France et le reste est vendu à l'exportation. Faut-il être choqué que la France soit le troisième producteur, troisième vendeur d'armes dans le monde, Daniel Cabanis?
Alors, au premier degré, on a tous un réflexe de rejet, parce que vente d'armes, c'est la guerre. Et puis on voit aussi bien la guerre terroriste, la guerre injuste qui vit grâce aux armes que l'on vend. Donc ça n'est pas très plaisant d'avoir cette progression pour en tirer la gloire d'une promotion. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas être complètement naïf. La vente des armes est un fait qu'on peut déplorer en général, mais en tout cas pour l'instant, on ne peut pas envisager qu'il n'y ait pas de vente d'armes. Or, l'intérêt à ce que enfin l'intérêt, c'est un peu mal choisi en termes de d'éthique, mais l'avantage, disons, qu'il peut y avoir à ce que la vente des armes soit le fait des États, c'est qu'ils, enfin, de sociétés, mais sous contrôle des États, c'est qu'il y a quand même un minimum de contrôle et un certain nombre de règles de droit international, à savoir de ne pas vendre à des belligérants. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on peut ne pas vendre à des belligérants directs, mais que le partenaire commercial, lui, peut revendre. Donc, il ne faut pas être complètement naïf. Lorsque l'Arabie Saoudite nous achète des armes, il n'est pas exclu qu'elle en fournisse à des groupes fondamentalistes qui, par ailleurs, sont nos ennemis. Hein, donc,
et aussi, c'est officiellement, ses ennemis à elle aussi.
C'est officiellement, ses ennemis à elle. Ce sont des jeux qui sont extraordinairement compliqués. Mais si nous nous référons à un passé pas si lointain que ça, avant la chute de l'URSS, avant qu'elle ne redevienne Russie, eh bien, on sait qu'un certain nombre des pays de l'ancienne Europe communiste, les PECO, étaient devenus des grands spécialistes de la vente d'armes pour que l'URSS puisse toujours dire « Ah non, nous, on n'est pas en cause ». Les Tchèques, en particulier, vendaient énormément d'armes et sans aucun respect de la clause « On ne vend pas des pays en guerre ».
Si vous permettez, pour élément au débat, il semblerait que vous dites que la France serait soumise donc à des normes internationales, on va dire pour faire court. La France, j'ai découvert ça, vendrait des armes à des pays sous embargo imposés par l'Union européenne. Le premier serait la Chine, le deuxième serait la Russie, le troisième l'Azerbaïdjan. On en vendrait aussi à l'Irak, à la Libye, la Côte d'Ivoire, la Somalie et la République démocratique du Congo. Et on n'a pas parlé donc des armes qui pourraient se retrouver in fine au Yémen. C'est pas surprenant ça quand même que la France vende à des pays sous embargo normalement?
Alors normalement ça ne devrait pas se produire. Pour certains, dans certains cas, il y a des levées possibles d'embargo moyennant des circonstances bien particulières. Et je crois, sans entrer dans les détails, que c'est le cas pour quelques-unes de nos ventes. Pour d'autres, on est en complète irrégularité. Ce qui donne à penser que ça ne dérange pas tout le monde, dirons-nous, c'est que le concert des autres nations vendeuses d'armes ne se fait pas entendre de manière retentissante. Ce qui veut dire, en clair, que tous les vendeurs trafiquent avec ceux avec lesquels ils ne devraient pas trafiquer. C'est malheureusement un phénomène qui s'est répandu. Il n'y a pas de gendarmes du monde. L'ONU est totalement impuissante à contrôler cela. Donc le fait est sans doute d'une assez grande dégradation.
Je vois le temps qui passe. Je voudrais juste donc apporter le dernier élément, c'est que donc indirectement l'opinion publique s'émeut que la coalition arabe pourrait utiliser via l'Arabie Saoudite des armes dans le conflit actuel au Yémen, qui est un conflit terrible. Évidemment, tous les conflits sont terribles, mais là on dit que c'est la pire crise humanitaire du moment. Et après, je me tais, c'est promis. J'ai trouvé dans Nos très chers émirs, livre de Georges Malbruno et Christian Chesneau, deux grands journalistes, quelques phrases, entre autres une, sur cette situation. Général 5 étoiles français qui dit « Au Yémen, nous soutenons une forme de massacre via l'Arabie Saoudite ». Bernard Ibal. Choquant,
oui.
Pas choquant?
Oui, non, mais d'abord, il faudrait vérifier tout ça, hein, parce que
notre cher Zemir, a priori, c'est quand même deux journalistes très sérieux.
Il y a des labyrinthes.
Oui, mais très orientés.
Oui, il y a des labyrinthes, là.
L'un travaille au point, l'autre à Libération. C'est...
Ça se passe pas à travers un supermarché, ça se passe à travers les services de renseignement, les services secrets, donc on sait pas trop comment ça fonctionne. Mais il faut remettre les choses en place, là. Les ventes d'armes françaises, c'est en gros 7 milliards d'euros par an. Les États-Unis, 10 fois plus. Alors, on peut toujours dire qu'on est troisième, hein, mais on est loin du premier. Hein. On est extrêmement loin du premier. Et la raison d'être de ces classements-là, c'est quels sont les pays qui s'occupent de la politique planétaire. Ils ne sont pas nombreux, hein, qui ont des capacités militaires de projection sur l'ensemble de la planète et qui utilisent ces capacités de projection. Là, ils ne sont pas nombreux non plus, et il y a la France dedans, quoi. Et ce sont, comme par hasard, les pays qui se projettent à l'extérieur qui ont cette capacité, en même temps, de vente d'armes, parce que les choses vont ensemble, là. Les choses vont ensemble. Et en plus, si on veut avoir une défense autonome, ne pas dépendre de l'étranger, on est obligé d'avoir une production qui dépasse les besoins de l'armée française, sinon il n'y a pas de production possible, et qui implique donc des exportations, sinon,
c'est un seuil de rentabilité.
Un seuil de rentabilité, et qui implique des exportations, sinon on n'a pas de défense autonome. Donc, je crois que là, il y a des problèmes graves d'éthique qui se posent, mais à partir du moment où les démocraties acceptent d'avoir des services secrets officiellement, dont le budget est officiellement voté par le Parlement, le budget des services secrets est officiellement voté par le Parlement, ça veut dire que on ne peut plus se poser la question de la légalité ou de l'illégalité dans ce cas-là, puisque le propre des services secrets, c'est d'être secret, quoi.
Tanguy-Marie Poulikien.
Alors, moi, je pense que cette question des armes, elle s'inscrit aussi dans le discours de l'éthique sociale chrétienne. C'est-à-dire que, d'un point de vue large, d'abord, d'un point de vue sociologique, historique, dans le temps long, il faut se dire, la violence dans le monde, elle baisse. Et elle baisse fortement sur 90-2017. C'est une baisse constante. Bon, il y a des facteurs émotionnels forts comme la Syrie ou la Libye, etc. Mais il y a une tendance globale, déjà, d'apaisement des relations internationales, ce que ne donnent pas, à première vue, les médias, etc.
La Crimée et l'Ukraine, ça faillit quand même avoir.
D'accord. Mais bon, il y a des pics locaux, mais globalement, il y a une baisse des tensions internationales. La légitimité de l'utilisation des armes, c'est la structuration des États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stabilité internationale, elle se fait si les États se structurent. Aujourd'hui, quand un État est fragilisé, c'est tout un pays qui est absolument à plat. On l'a vu en Irak. Donc, de vendre à des États, c'est d'une certaine manière légitime si ça garantit des frontières et un fonctionnement de l'État. Ensuite, il y a la question de ce qui est légitime, c'est s'inscrit dans le droit de la guerre que promeut l'Église. L'Église, il y a un droit de la guerre, oui. C'est-à-dire, on peut utiliser les forces armées seulement après un dialogue bien éprouvé du dialogue social, du dialogue politique, de l'alternative politique, etc. Donc, les guerres de prévention, la prévention armée est interdit. L'ingérence armée, on a parlé d'ingérence humanitaire, l'ingérence politiquement armée, elle est vraiment interdite. Alors pour la France, il y a quand même une responsabilité historique, notamment pour l'Afrique, hein. Aujourd'hui, une responsabilité internationale, et on peut remercier les politiques successives françaises d'avoir assumé cette responsabilité pour contrecarrer des avancées idéologiques sectaire dans le Sahara particulièrement.
Voilà, merci beaucoup. Je me permettrai juste de citer le pape François qui, sur cette histoire des ventes d'armes, lors de son voyage en Terre Sainte, j'ai souvenir qu'à un moment, il avait eu un propos très vif en disant « Qui vend les armes ? Qui vend les armes ?» Alors peut-être, je trouvais que c'était quand même important de le redire. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec une aide précieuse de Maïlène Guillem. Vous pouvez réécouter ce soir cette émission à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.